Hubert Maury, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à la Foire du Livre. Vous êtes venu présenter Diplomatie clandestine qui vient de sortir chez Glénat. Alors, Raphaël, votre personnage principal, vous ressemble-t-il où s'arrête l'autobiographie ou commence la fiction?
Alors, Raphaël ne me ressemble pas parce que c'est un héros, en fait, qui existe depuis les années 90, en gros. C'est un personnage que j'avais créé avec un ami qui est journaliste, d'ailleurs, dont je ne dirai pas le nom, et qui aurait dû voir le jour dans une bande dessinée qui ne, vous l'avez compris, pas vu le jour. Mais n'empêche que lui, Raphaël, a toujours été dans ma mémoire et surtout qu'il a le physique de ce journaliste. Là, j'en ai fait un espion français. À la base, c'était un journaliste hein, dans la première mouture d'une histoire qui datait donc de 90 et bien évidemment qui racontait pas la même chose que ce que ça raconte aujourd'hui.
Alors, vos protagonistes sont-ils des archétypes rencontrés durant votre carrière ou des créations destinées à servir l'intrigue?
Alors, certains sont des archétypes rencontrés dans ma carrière, certains sont des personnages destinés à faire de ce livre une fiction, un roman d'espionnage. Par exemple, Ariana, je vous parle, personne ne sait qui c'est encore, c'est une jeune afghane qui sert de traductrice aux agents secrets français.
C'est un fil rouge finalement.
Oui, un fil rouge, absolument, oui. Elle a vraiment existé, elle n'était pas vraiment au service des espions, mais elle était au service de l'ambassade. Mais Marie-Caroline, qui elle est la chef du service de contre-terrorisme, elle, c'est une invention, même si elle est bien évidemment inspirée de personnages vivants.
Comment disiez-vous la part de vécu personnel et la part de fiction pure pour protéger finalement le secret professionnel tout en restant crédible?
Alors en fait, moi je me suis inspiré de faits qui se sont véritablement produits et vous l'avez compris aussi de personnages qui ont vraiment existé, mais pas forcément dans le pays en question, pas forcément des personnages qui sont qui apparaissent dans le roman, dans le roman graphique, mais que j'ai pu pêcher ça et là, et que j'ai relié justement par la magie de la fiction. J'ai pris des faits, et puis avec ces faits-là, j'ai pu faire une trame romanesque en m'inspirant de faits, de personnages, mais au bout du compte, ça reste une fiction.
Mmh. Pour les décors et les contextes géopolitiques, quelle part accordez-vous à vos souvenirs par rapport à une recherche documentaire classique?
Oui, alors ça, c'est moi, j'aime beaucoup cette question parce que effectivement, moi, je ne cherche pas le réalisme à tout prix. Je cherche à créer une ambiance. Je cherche à créer mon Afghanistan ou mon Cambodge. Mon Afghanistan, à l'époque, il ressemblait un petit peu dans les années 90. Il ressemblait à ce que j'avais lu dans la bande dessinée Les Innommables de Yann et Conrad. Mon Afghanistan des années 2010, c'était plutôt un Afghanistan qui pouvait me faire penser à des films de Serge Gellone. C'est ça que j'ai voulu rendre. Il y avait un côté western, il y a un côté les calaches en bandoulière, etc. Pourquoi pas les caches-poussières, là, on appelle ça des patous, c'est des espèces de couvertures que les Afghans portent. Et même le pacole, en même temps, c'est presque un setson, quoi, mais un peu un setson à l'afghan, bien sûr. Donc moi, c'est avant tout l'ambiance et pas le réalisme, mais être le plus possible juste en créant ces ambiances.
Le dessin impose une géographie, des visages, des uniformes. Avez-vous parfois eu l'impression d'en faire trop ou trop montrer ou peut-être pas assez?
En termes de quoi? En termes de
géographie, de visage, des uniformes que l'on...
Non, je me suis pas du tout intéressé à faire des uniformes réalistes non plus. D'ailleurs, ma coloriste, à qui j'ai laissé toute liberté pour colorier, elle s'appelle Élise Follin, c'est quelqu'un qui travaille dans mon atelier à Paris, on est dans le même atelier à Paris, a carrément interprété elle-même ce qu'elle voulait faire. Je voulais vraiment pas faire un documentaire là pour le coup, contrairement à ce que j'ai peut-être essayé de faire dans mes bandes dessinées précédentes.
Dans votre BD, le secret est omniprésent. Que dit-il selon vous du fonctionnement du pouvoir?
Le secret, il dit du fonctionnement du pouvoir que de temps en temps, il faut pouvoir justement prendre en compte ce que le secret dit. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on prend pas suffisamment en compte peut-être ce que les services spéciaux ont à dire. Tout le monde a été surpris. Enfin, j'ai l'impression que les politiques ont été très surpris de que Poutine déclare la guerre à l'Ukraine. Alors, est-ce que c'est un défaut de renseignement ou est-ce que c'est parce que le renseignement n'a pas suffisamment été pris en compte par les politiques? On a eu aussi la chef du DNI, du renseignement américain, qui dit maintenant que la menace iranienne n'était pas si imminente que ça. Alors, pourquoi avoir déclaré la guerre? Qu'en est-il du renseignement? Est-ce qu'il a été pris en compte ou pas? C'est les questions qui se posent. Voilà ce que j'en dis, en fait.
Comment avez-vous travaillé l'ambiance visuelle de l'album pour retranscrire cette atmosphère de clandestinité?
L'ambiance visuelle, elle s'est essentiellement faite, je pense, sur les scènes de nuit. En fait, tout ne se passe pas dans la nuit, dans la vraie vie, bien évidemment. Mais là, il fallait donner un côté clandestin et la clandestinité, la nuit se conjugue très très bien avec la clandestinité. Et même si beaucoup de contacts des agents français se passent la nuit, il est évident que les scènes de nuit pour moi étaient évidentes et essentielles.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le format BD plutôt qu'un roman classique ou un témoignage purement textuel?
Alors, figurez-vous que j'ai fait un roman classique chez Gallimard il y a trois ans.
Avec Marc Duguin.
Avec Marc Duguin à la Boulouala. Et donc, la première réaction, ça a été de faire un roman plutôt qu'une bande dessinée. Mais quand mon éditeur, Franck Marguin de Glénat, a lu le roman qui s'appelle Les Hommes sans nom, il m'a dit, mais est-ce que tu pourrais pas nous faire, non pas une adaptation, mais autre chose, mais cette fois-ci en bande dessinée? Et là, je me suis lancé dans une bande dessinée pour répondre un
petit peu. C'est plus ardu?
C'est plus difficile, la bande dessinée.
En quel sens?
Dans le sens où il faut montrer des choses. Et dans le roman, on n'est pas obligé de les montrer, on peut les décrire. Et les montrer, ça trahit beaucoup de choses. Par exemple, si un personnage ne doit pas apparaître à l'écran ou dans une bande dessinée, pour une raison qu'on peut comprendre, parce qu'il doit rester mystérieux, c'est très difficile. Dans un roman, c'est très facile. Il suffit de pas le nommer, et puis voilà, quoi. Or là, à l'écran, par exemple, comment on fait pour rendre quelqu'un qui va réapparaître plus tard? Enfin bon, c'est plus compliqué à manier. C'est beaucoup plus difficile.
D'où, en fait, ma question, c'était le dessin permet-il d'exprimer des nuances diplomatiques ou des silences que les mots seuls ne pourraient traduire, finalement?
Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Et ça, c'est assez confortable, parce qu'il y a des moments où on s'appuie, par exemple, on va décrire une scène un petit peu difficile. Avec des mots, c'est compliqué, parce qu'il faut rendre l'émotion, mais pas trop la rendre quand même, parce qu'il faut pas tomber dans le pathos. Avec le dessin, c'est le lecteur qui finalement prend en compte le dessin, c'est lui-même qui va apprécier ou pas, s'il va avoir de l'émotion, s'il va pas en avoir. Mais j'allais dire, c'est un partage à deux. Un partage du travail entre l'auteur et le lecteur.
Le lecteur, voilà. La diplomatie est souvent faite d'attente et de discussion. Comment parvient-on à maintenir une tension dramatique dans le cadre d'une BD?
Oui, ça c'était un des gros problèmes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de discussions. C'est vraiment une bande dessinée du temps long, et pourtant il ne faut pas ennuyer son
lecteur.
Il ne faut pas ennuyer son lecteur. Je pense que là, pour le coup, le dessin est très important, la mise en scène aussi. C'est-à-dire que chaque page, le lecteur se rendra peut-être compte, constitue en soi une petite histoire avec une sorte de petit cliffhanger. Pas toujours, elle donne un truc monstrueux. Et donc, c'est toute une technique de scénarisation qui permet, en fait, et qui amène le lecteur à tourner la page.
Le recrutement des sources humaines est au cœur du récit. Quelles sont les plus grandes difficultés psychologiques et éthiques auxquelles fait face un officier traitant sur le terrain?
Je pense que la difficulté, et je pense que j'imagine que tous les officiers traitants se posent la question, jusqu'où dois-je aller pour une cause qui me dépasse? Et donc, à un moment donné, je pense que ces gens-là se posent, à un moment donné, la véritable question que si jamais ça va trop loin, j'arrête. Donc il faut savoir à quel moment il faut s'arrêter ou au contraire poursuivre, parce que la cause est tellement importante qu'il faut poursuivre. Mmh. C'est une question que se posent, j'imagine, tous les officiers traitants de la planète.
J'aime bien vos quatre leviers de manipulation.
Oui.
C'est...
Ça émane des services britanniques.
C'est intéressant quand même, ouais. comme déduction. C'est mis en pratique.
Absolument. Je pense que ça apparaît dans tous les manuels de manipulation et pas simplement dans les manuels de manipulation des agents secrets. On peut les citer. Je sais plus. C'était Mice. On dirait que ça fait moule souris. Je me souviens plus. Le C, c'est coercition. Le M, c'est monnaie, donc l'argent. Ouais. Le I, c'est idéologie.
Ego,
et le E, c'est ego. Voilà.
La diplomatie officielle et les renseignements clandestins sont souvent présentés comme étant deux mondes séparés. Dans votre expérience personnelle, est-ce que ces deux sphères interagissent-elles vraiment sur le terrain?
Oui, bien sûr. Elles interagissent obligatoirement, parce que la diplomatie officielle, c'est en fait des diplomates qui vont rencontrer, comme le nom le dit, les officiels, c'est-à-dire les présidents, les autorités, les ministres, les gouverneurs. Mais dans un pays en crise, il y a forcément une opposition, au mieux, une rébellion ou enfin en tout cas des gens qui, et ça il faut quand même les rencontrer. Et là, il y a des gens qui sont payés pour le faire. Ben, ce sont les diplomates clandestins dont il est question dans le livre. Donc, il y a deux diplomaties qui se complètent complètement, quoi.
En tant que simple citoyen du monde, on a souvent la sensation de se trouver dans un sketch d'Anne Romanoff. On ne nous dit pas tout.
On ne dit jamais tout, heureusement, ouais.
Mais c'est vrai que parfois, on est un peu frustré de se dire, mais qu'est-ce qui se trame derrière nous, ou derrière les écrans, derrière les rooms de crise, hein, c'est...
Oui, je pense que, mais il est normal qu'on ne dise pas tout, en fait, parce que tout n'est pas dissible, dans la mesure où il y a des choses qui vont rester secrètes au niveau des politiques et qu'il ne faut pas que le commun des mortels soit informé. Parce que, un, ça pourrait mettre en cause une opération, et deux, il y a des choses qui se font, on le sait, de façon feutrée, cachée, clandestine. Et je pense que c'est une nécessité pour une grande puissance, en tout cas, d'avoir un service secret.
La question qui manipule, qui reste ouverte à la fin, est-ce un choix éthique ou simplement le reflet d'une réalité de terrain ?
Alors, la question, elle est surtout importante parce que quand vous êtes un officier traitant, c'est l'unique question, enfin c'est pas l'unique question, mais c'est la grande question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est moi qui manipule ou est-ce que je suis manipulé ? Donc c'est vraiment la question de base.
Et ça amène des coups de théâtre comme...
Eh ben oui, ça peut donner des coups de théâtre.
Alors je vais aider là,
comme dans ma BD. C'est à l'évidence la véritable question, parce que le renseignement humain s'appuie essentiellement sur la manipulation avec les 4 ou 5 leviers dont on a parlé. Et à un moment donné, il faut voir si le levier, il n'a pas été mis pour vous mettre un coup derrière.
On est toujours en questionnement.
On est toujours en questionnement. Il faut se poser la question. Je pense qu'ils se posent tous la question.
Dès qu'on baisse ses armes.
Il faut jamais baisser l'arme parce que effectivement, vous êtes peut-être vous la proie de la manipulation. Vous pensez pourtant avoir mené jusque là, quoi.
Vos précédents albums, citons Pays des Purs, que vous avez co-scénarisé avec Sarah Caron, photographe au Pakistan, Disneyland Club avec Taha Siddiq, qui est ancien journaliste pakistanais. Donc dans ces précédentes BD, vous portez une voix extérieure, et ici c'est votre propre monde. Est-ce plus libérateur ou plus périlleux ?
C'est plus libérateur. Et c'est tout aussi périlleux, parce que le péril avec Sarah ou avec Taha, c'était de ne pas trahir. Parce que mine de rien, je suis quand même à la manœuvre en termes de scénario, et c'est de ne pas trahir leur histoire. Donc c'est en cela que c'était périlleux. Et c'est en cela que c'était assez contraignant. Et en revanche, quand moi j'ai les manettes, enfin quand j'ai les coups des franches, c'est beaucoup plus confortable, bien évidemment, mais c'est tout aussi périlleux, parce que si vous vous plantez, c'est vous vous plantez tout seul, quoi. Vous êtes pas deux à devoir porter l'erreur que vous avez pu faire ou ce genre de choses, quoi.
Et cet humour slam click.
Oui.
C'est vous ?
Ah oui, ça c'est complètement moi. Ça c'est parce que j'étais un grand lecteur de bande dessinée et j'adorais les onomatopées. En plus, j'ai travaillé avec en face de moi quand j'ai écrit ce livre, enfin quand j'ai avec Merwan Chaban, qui est un auteur de BD, qui avait fait notamment Mécanique Céleste, où il y avait des comment on appelle ça, des onomatopées à tout va, et je trouvais ça absolument à mourir de rire. Donc j'ai un peu imité sa façon de faire les onomatopées, mais ouais, c'est sur des...
C'est pour détendre de l'atmosphère. Comme...
Tout à fait, c'est pour prendre une certaine distance et pour dire au public, on est quand même dans la bande dessinée, je fais de la BD. Hein. N'allez pas croire que je fais autre chose, quoi.
Après Saint-Cyr, la diplomatie, le Pakistan, l'Afghanistan, la BD est-elle pour vous un nouveau terrain d'opération ou enfin un espace de liberté ?
C'est un petit peu les deux, mais j'allais dire, heureusement qu'il y a eu Saint-Cyr, heureusement qu'il y a eu la diplomatie, heureusement qu'il y a eu mon passé militaire, parce que sinon j'aurais pas eu peut-être grand chose à raconter. Alors que là, grâce à mon métier, à mes métiers précédents, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont très largement inspiré, et puis même vivre des expériences qui m'ont très largement inspiré.
Après avoir été un acteur de diplomatie, comme vous le signalez, quel regard portez-vous sur l'évolution des conflits actuels ? Ici, c'est très riche en ce moment. Bon, on voit aussi fatalement le problème d'Afghanistan, Pakistan, où c'est de nouveau très chaud. Vous avez vu le film 13 jours, 13 nuits ?
Non, je l'ai pas vu. Hein ? De Montboulon ?
Ouais.
Je l'ai pas vu.
Ça, c'était sur le 15 août.
L'évacuation.
finalement, qui vous concerne un petit peu aussi.
Enfin, oui, alors je m'étonne de ne pas avoir vu ce film. Malheureusement, il est passé très rapidement et j'ai pas pu le voir, mais je le verrai. Je m'en suis pas du tout inspiré donc pour mon livre, mais effectivement, j'aurais voulu le voir. Il se trouve que effectivement la situation actuelle laisse. Enfin, mais c'est très difficile d'en parler parce que justement il y a un tel manque. Il y a trop d'informations ou pas suffisamment d'informations. En tout cas, on a du mal à se situer par rapport à l'information qui nous est donnée.
Et les fake news aussi.
Et les fake news. Tout ça est à prendre en compte. Et c'est, moi, jamais j'aurais la volonté de parler de ce qui se passe actuellement. Mais je me rends compte qu'effectivement, par exemple, contre l'Iran, l'intervention américaine et israélienne contre le régime islamique, on nous avait parlé d'une guerre éclair. Les belligérants, en tout cas, en avaient parlé, on y avait cru. Enfin, moi, j'y avais cru, pourquoi pas. Et finalement, non, j'ai l'impression, je sais pas, parce que personne ne sait si on s'avance vers une guerre d'enlisement, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué, je trouvais, actuellement, de pouvoir parler de tous ces conflits. Il y en a qui le font sur les plateaux. Moi, j'aurais du mal à le faire, hein, très honnêtement, même en ayant les regards peut-être un peu plus avertis que d'autres, dans la mesure où j'ai vécu un peu ça en Afghanistan, au Cambodge, voilà.
Est-ce que, justement, avec votre passé, vous voyez les choses différemment maintenant? Est-ce que ça influe votre jugement sur ce qui se passe, sur l'évolution, notamment des services de renseignement?
Oui, mais
vous avez carrément coupé?
Non, je pense que j'ai quand même carrément coupé. Mais il est vrai qu'à un moment donné, vous êtes au cœur de quelque chose, et là, vous n'y êtes plus du tout. Mais quand vous n'y êtes plus, vous n'y êtes vraiment plus. Et donc, c'est assez, au départ, assez frustrant. Et finalement, comme vous n'y êtes plus, c'est pas que vous vous désintéressez, mais vous vous dites, OK, ce n'est plus ma place, donc je vais faire comme les autres, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention, mais aussi avec un esprit critique ou avec une sorte de, comme mes camarades d'atelier, vous êtes journaliste, donc c'est plus différent, vous êtes vraiment encore dans le métier. Moi, je ne suis plus qu'un spectateur très éloigné, hein, de tout ce qui se passe. Et donc, je garde l'humilité de dire, attention, faut pas que je m'engage à donner des avis qui seraient forcément faussés, parce que c'est des avis qui sont actuels et qui ne sont pas, qui ne prennent pas en compte réellement ce qui se passe, dans la mesure où j'ai pas l'observation, je suis pas en première loge, quoi. C'est terminé, quoi.
On parlait de Marc Duguin tout à l'heure, celui qui signe la préface, directeur de cette collection espionnage chez Gallimard. Il vous connaît bien, quand même, pour...
Alors, la collection n'existe plus. Hein. Il y a eu 3 livres, parce que Marc Duguin est parti et a rejoint Albin Michel, et donc il est plus chez Gallimard, j'en suis sûr, quoi. Non, il me connaissait pas bien, moi j'ai fait ça vivre avec Marie-Victor, qui est un de mes amis que j'ai rencontré justement à Kaboul, et qui tenait un restaurant qui s'appelait L'Atmosphère, qui est devenu pour la télévision Kaboul Kitchen. Alors, ça parlera peut-être à certains.
Et seront. Stéphane de Groot, non?
Ouais. Avec le deuxième, au début, ouais. C'était avec Gilbert Melki. Après, c'est Stéphane de Groot qui a pris le rôle principal. On a simplement écrit un roman avec Marc, Victor, pour le coup, qu'on a envoyé à Gallimard. Et il se trouve qu'on l'a envoyé à un alignement de planètes incroyable au moment où Marc Duguin créait cette collection d'espionnage. Et donc, on a été le premier livre de la collection d'espionnage de Marc Duguin.
Hubert Maury, un grand merci. Donc, on rappelle Diplomatie clandestine qui vient de sortir aux éditions Glénat.
Merci beaucoup.